Bonjour à tous. C'est merveilleux d'être avec vous en ce jour de sabbat. Frères et sœurs, alors que nous commençons ce message, je voudrais juste revenir en arrière et vous ramener un peu en arrière, il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, ma femme et ma fille ont eu l'occasion de se rendre dans une école, et il y avait une fonction pendant une soirée. Pendant la soirée, nous nous sommes assis dans l'auditorium et, en regardant la scène de l'auditorium, nous avons assisté à une présentation. Le directeur de l'école et certains enseignants ont fait une présentation et ils ont remis des prix à certaines personnes, mais il y a également eu une présentation d'une société, d'une organisation, et sur l'écran, il y avait leur emblème ou leur symbole. Les enfants ont expliqué la signification de certains symboles, ce que cette société ou cette organisation, le symbole qu'ils avaient, ce seul symbole signifiait pour eux. Alors que nous rentrions à la maison en pensant à l'événement de la soirée, le soleil se couchait déjà et il faisait sombre. Je pense que c'était une soirée pluvieuse, mais nous sommes passés devant un concessionnaire automobile et en regardant sur ma gauche, j'ai vu un énorme drapeau américain. Pour quelqu'un qui vient d'Afrique du Sud et qui est habitué à la taille normale des drapeaux, ce n'était pas la taille normale d'un drapeau que l'on peut tenir dans ses mains et qui couvre la tête et certaines parties du corps. Non, celui-ci était aussi grand qu'un camion et il flottait au vent. Mais en regardant le drapeau, j'ai pensé au symbole que j'avais vu à l'école, mais aussi à ce drapeau. Le drapeau américain. Il représente l'histoire de ce pays, sa culture et ses réalisations. Tout cela en un seul symbole. Quand on est citoyen américain, ce drapeau, quand on le voit, évoque, et il peut évoquer l'émotion. Il peut susciter la fierté. Lorsque vous pensez à l'histoire de ce pays, à toutes ses réalisations, cela peut susciter une émotion de fierté et de patriotisme. Quelle est la définition d'un symbole? Ces symboles peuvent être des outils puissants pour communiquer des idées complexes ou ils peuvent véhiculer du sens et des émotions. Ces deux choses, le sens et les émotions, sont exprimées par une simple représentation visuelle. Pensez à la vue d'un drapeau, qui crée une émotion, ou à celle de l'emblème de votre équipe sportive préférée, qu'il s'agisse d'une équipe de football aux États-Unis ou de toute autre équipe que vous soutenez, le simple fait de voir un tel symbole peut créer un sentiment, une émotion d'identité, d'unité et de fierté. Frères et sœurs, Dieu nous a donné beaucoup, beaucoup de symboles dans sa parole. Pensez à des exemples. Lorsque nous pensons au symbole que nous voyons dans le monde, peut-être le symbole d'un véhicule, de votre équipe sportive ou de votre drapeau national, nous pensons, oui, nous commençons à nous préparer pour la Pâque et les jours saints du printemps, nous pensons aussi au symbole que Dieu a donné. Pensez à la Genèse 49, où Israël a décrit chaque tribu d'Israël avec un symbole spécifique. Pensez à Judas, décrit comme un lionceau. C'est un symbole de fierté et de puissance, comme un lion. Nous parcourons le livre de Daniel et nous apprenons l'existence de la statue que Daniel a vue ou de la bête, qui est aussi un lion, un ours et un léopard, une bête aux dents de fer. Ce symbole représente quelque chose. Il peut représenter une signification spécifique que Dieu veut transmettre. Frères et sœurs, alors que je donne ce message cet après-midi, et frères, vous entendrez ce message une semaine avant la Pâque, nous sommes environ 2 semaines avant la Pâque. Sur le terrain, vous entendrez ce message juste une semaine avant. Nous nous concentrons sur 2 symboles spécifiques pendant cette période, n'est-ce pas? Dieu nous a donné 2 symboles très spécifiques et aujourd'hui, nous allons examiner la signification profonde, d'une part, des 2 symboles de la Pâque et, d'autre part, de l'objectif singulier. Au cours de ce message, Nous examinerons la signification des symboles, et nous verrons aussi qu'il y a un but. Un seul but, un but singulier. Frères et sœurs, commençons à examiner la signification des symboles de la Pâque en nous tournant avec moi vers les 1 Corinthiens. Allons au chapitre 11 des 1 Corinthiens. Lorsque nous pensons aux symboles que Dieu nous a donnés, mes frères, il y a une signification profonde, très profonde dans les deux et nous allons passer en revue chacun d'entre eux et vous savez de quoi il s'agit. Ils ne nous sont pas inconnus. Nous les connaissons bien si vous avez déjà célébré la Pâque et assisté à un service de la Pâque, mais c'est peut-être aussi la première fois que vous allez célébrer la Pâque. Ces deux symboles sont importants. Nous pensons au pain et au vin, mais comme vous êtes déjà dans le chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens, nous reprendrons au verset 23. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23, et je lis ici. Paul dit, « Car j'ai reçu du Seigneur. » En parlant du Père, vous verrez ici, « Je vous ai aussi transmis le Seigneur Jésus. » Le Père lui a donné cette compréhension que le Seigneur Jésus, la nuit même où il a été trahi, a pris du pain. C'est la première fois que l'on parle de pain. Cela n'était pas inconnu des disciples. Frères et sœurs, lorsqu'il était avec Christ, le pain ne leur était pas inconnu. Paul non plus n'était pas étranger au pain, mais il n'en comprenait pas la véritable signification et Dieu a dû l'enseigner aux disciples. Tout à l'heure, Christ a dû leur enseigner cela, mais il a aussi dû l'enseigner à Paul. Frères et sœurs, nous en apprenons la signification profonde aujourd'hui, alors que nous avançons et que nous nous approchons de la Pâque. Verset 24. Après avoir rendu grâce, il le rompit, et dit, « Prenez. Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ce verset, le verset 24, mes frères, est plein de sens. Ensuite, au verset 23, il est dit qu'ils prirent du pain. De quel type de pain s'agit-il? Quand j'étais plus jeune, j'ai grandi dans l'église protestante, je me souviens d'être allé à l'église le dimanche et quand ils prenaient le repas du Seigneur, pour ainsi dire, ils passaient l'assiette et vous voyiez un certain type de pain passer devant vous. Évidemment, en tant qu'enfant, vous n'étiez pas autorisé à utiliser cela, mais lorsque nous entrons dans l'église de Dieu, mes frères, et que nous apprenons la vérité sur le pain, le premier symbole que nous regardons, de quel type de pain s'agit-il? S'agit-il simplement du pain ordinaire que vous trouvez dans votre garde-manger, que vous achetez chaque jour au magasin, le pain que nous mangeons? Allons dans l'Exode et regardons l'histoire d'Israël où Dieu a institué la Pâque, mais nous trouverons aussi la réponse à la question de savoir de quel type de pain nous parlons. Vous êtes tous avec moi dans l'Exode. Chapitre 12 de l'Exode, et nous allons passer en revue quelques versets. En regardant ma Bible, l'entête, c'est la Pâque, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Il leur donne déjà des instructions sur ce qui va se passer très bientôt. Ils n'ont jamais célébré la Pâque auparavant, et Dieu a donc dû leur donner des instructions sur la façon de la célébrer. Verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année, c'est-à-dire Abib. Nous sautons tous vers le bas et nous arrivons au verset 7. Ils prendront du sang et le frapperont sur les deux poteaux de la porte supérieure des maisons où ils le mangeront. Puis, au verset 8, Dieu leur donne des instructions sur la façon de prendre l'agneau de la Pâque et commence à leur apprendre ce qu'est le 14 d'Abib, en le prenant le 10, en l'immolant le 14. Et ensuite ils en mangeront la chair au verset 8, en parlant de l'agneau de la Pâque, cette nuit-là, rôti au feu et avec des pains sans levain. Il ne s'agit donc pas de pain ordinaire, de ce pain gonflé que l'on trouve dans les magasins, mais de pain sans levain, qu'ils mangeront avec des herbes amères. Voilà donc la réponse à la question de savoir de quel type de pain il s'agit. Il s'agit de pain sans levain. Du pain qui ne contient pas de levain. Il était préparé. On ne peut pas enlever le levain. Il devait le préparer sans levain dès le départ. Frères et sœurs, tournons-nous vers le chapitre 5 de la première épître aux Corinthiens, en pensant à nous pendant un moment, alors que nous réfléchissons à la signification du pain. 1 Corinthiens 5. Nous étions dans 1 Corinthiens 11, et juste quelques versets avant, il est dit ici au verset 6, Paul instruit, encore une fois, les Corinthiens, il dit, « Votre gloire n'est pas bonne. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Nous voyons donc ici une description du pain, le symbole du pain où l'on cuit du pain, où l'on met un peu de levain, et finalement, le levain se répand et tombe avant que le pain ne soit cuit, les dames sauraient qu'il fait tomber toute la masse. Ici, dans les Corinthiens, l'un des hommes avait un problème de fornication et Paul a dû s'en occuper. Au verset 2, il dit que ce péché et tout autre péché, frère, nous gonfle. C'est ce levain que vous introduisez. Le levain représente le péché dans nos vies. Poursuivons notre lecture au verset 7. Paul dit, purgez donc le vieux levain. Nous pensons ici au jour où nous nous préparons pour les jours des pains sans levain, où nous éliminons le vieux levain de nos maisons, le levain physique. Afin que vous soyez une masse nouvelle, comme si vous étiez sans levain. Car Christ lui-même, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Voilà la référence à la Pâque. Verset 8, c'est pourquoi, célébrons la fête. Une instruction pour nous, frères. Ce n'est pas seulement pour les Israélites de l'Ancien Testament, ici c'est une instruction que Paul a donnée à une congrégation, alors que je parle ici au siège et que je parle aux frères à travers le monde, nous avons reçu exactement la même instruction en tant que peuple de Dieu pour garder cette fête. Cette fête est donc toujours en vigueur, les jours des pains sans levain, la Pâque vers laquelle nous nous dirigeons. C'est pourquoi, célébrons la fête, et non avec du vieux levain. Encore une fois, il s'agit de levain physique, mais pas de levain de malice et de méchanceté. Ce levain parle du péché dont nous devons nous débarrasser dans nos vies, de la malice et de la méchanceté. Mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Là encore, il est question de pain sans levain. Frères et sœurs, une fois encore, le levain représente le péché dans nos vies qui nous donne de l'énergie, l'orgueil, le péché et la fierté dont nous voulons nous débarrasser. Mais qu'est-ce que le péché? C'est quelque chose de très fondamental, mes frères, auquel nous devons réfléchir lorsque nous faisons notre examen de conscience en demandant à Dieu d'enlever le levain de notre vie pendant que nous éliminons le vieux levain physique de notre maison, et que nous y réfléchissons et méditons sur ce sujet. Vous pourriez poser cette question, chaque année, nous devrions poser cette question, qu'est-ce que le péché? Allons au 1 Jean, chapitre 3, en parcourant quelques versets fondamentaux. Mes frères, alors que nous établissons la signification profonde du symbole du pain. 1 Jean, chapitre 3, et nous lisons au verset 4, « Quiconque commet un péché transgresse aussi la loi. » Voici l'un de ces versets de la Bible qui nous donne simplement une définition. Nous avons vu la définition d'un symbole, ici Dieu nous donne la définition du péché. Car le péché est la transgression de la loi. C'est très, très clair et très simple. C'est grave, mes frères, quand on y pense. En pensant à l'émotion, lorsque nous pensons au péché et à la transgression de la loi de Dieu, allons au chapitre 6 de l'Épître aux Romains, quelles sont les conséquences du péché? Nous commençons à penser à nous-mêmes. Nous prenons soin de nettoyer nos vies, mais nous avons aussi besoin de savoir, non seulement ce qu'est le péché, mais aussi ce qu'est le salaire du péché, les effets, les conséquences. Et vous savez, mes frères, un autre verset fondamental que nous parcourons, Romains, chapitre 6 et verset 23. Nous voulons penser non seulement au pain en tant que symbole, mais aussi au pain sans levain, au pain sans péché, complètement sans péché, purgé de tout péché. Au verset 23 de l'Épître aux Romains, il est dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Le salaire peut signifier la ration. Pensez au soldat qui reçoit une ration, une allocation ou une solde. Le paiement pour le péché, Dieu dit que tout le monde a péché, et le paiement est la mort. Frères et sœurs, c'est sérieux. Cela devient plus personnel, n'est-ce pas? Quand vous pensez au symbole. Lorsque vous voyez ce pain, il représente, lorsque nous pensons au pain sans levain, nous commençons déjà à penser à nos péchés et au salaire du péché. Nous savons que nous ne sommes pas sous la peine de mort, mais nous entendons que le salaire du péché est la mort, alors que le don de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, nous avons établi que le pain sans levain symbolise le péché ou le levain complètement éliminé. Nous devons l'éliminer de nos vies. Lorsque nous ferons l'ajourage au cours des deux prochaines semaines, et pour ceux qui entendront ce message, au cours de la semaine prochaine, il vous reste environ une semaine pour ajourer votre maison, mais l'ajourage de nos vies est un processus, n'est-ce pas? Regardons le chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. Je vous prie de vous reporter au chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, et de regarder l'exemple de Jésus-Christ qu'il a donné. Nous lisons le chapitre 2 de Philippiens à partir du verset 7. En parlant du Christ, il dit, « Il s'est fait lui-même une mauvaise réputation. Il était Dieu, il s'est fait lui-même, il a décidé d'être de mauvaise réputation. Il a pris la forme d'un serviteur et s'est fait semblable aux hommes. Et ayant pris la forme d'un homme, il s'est humilié et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Humilité. Christ devait être sans fard. Il devait être sans péché. Il devait être le pain sans levain de la sincérité et de la vérité. Il n'y avait pas de vanité en lui. Frères et sœurs, pensez que lorsque nous nous examinons nous-mêmes à la recherche de vanité dans nos vies, Christ n'avait pas de vanité. Il n'avait pas d'orgueil. Si nous pensons aux quatre grands péchés que nous recherchons parfois, la vanité, l'orgueil, la luxure et la cupidité, Christ n'avait rien de tout cela. Il était complètement sans péché. Il était le pain sans levain de la sincérité et de la vérité. Voyons maintenant ce que représente le pain. Luc, chapitre 22. Nous avons vu qu'il s'agit de pain sans levain, mes frères. Le levain représente le péché, mais qu'est-ce que le pain? Quelle est sa signification? Que représente-t-il? Luc, chapitre 22 et verset 19. Nous regardons le récit où Christ a institué les deux symboles, les symboles de la Pâque, et nous lisons ici au verset 19, « Il prit le pain, rendit grâce, le rompit et le leur donna à ses disciples. Pensez à la façon dont vous recevrez ce pain sans levain pendant le service de la Pâque. Ceci est mon corps. Frères et sœurs, nous avons dit tout à l'heure que les disciples connaissaient les pains sans levain, ils en comprenaient le sens. Ils savaient ce que signifiait l'Exode, mais ici, Christ dit, « Ceci est mon corps ». Ils n'ont jamais compris que Christ établissait maintenant ce lien, non seulement avec le pain sans levain, le pain physique qu'ils devaient manger, mais qu'il y avait un lien avec le symbole. Lorsqu'ils ont vu le pain, pensez à nouveau au symbole, ils devraient comprendre et nous devrions comprendre la signification, frères, Et cela signifie que c'est le corps du Christ qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Christ a donné son corps, il a pris une décision. C'était une décision personnelle. Le pain que vous prendrez, le pain que je prendrai, mes frères, représente le corps du Christ. Revenons maintenant à l'Ancien Testament et examinons un peu plus en profondeur le corps du Christ et sa signification. Qu'a-t-il donné? Ésaïe, chapitre 50. De nombreuses personnes qui ont entendu Christ dire cela auparavant, lorsqu'il enseignait dans les rues, n'ont plus marché avec lui. Ils ne comprenaient pas comment un homme pouvait nous donner son corps. Vous et moi, mes frères, pouvons comprendre cela, nous pouvons connaître et devrions connaître la signification, surtout lorsque nous réfléchissons et méditons sur le plan de Dieu et sur notre rôle dans ce plan, ici avant la Pâque. Mais si vous êtes ici, dans Ésaïe 50, et que nous reprenons au verset 6, il est question du Christ. Il s'agit du Christ. Il dit, « J'ai donné mon dos. » Pensez à son dos lorsqu'il a été torturé. Il se tenait là et il l'a pris, mais le mot « dos » peut aussi signifier son corps. Ils ne l'ont pas seulement battu avec un chat à neuf queues, déchirant son dos, ils sont allés plus loin sur ses jambes, et nous le verrons encore un peu plus, mes frères. Mais réfléchissez encore, encore, quand nous faisons du symbole de la Pâque, non seulement un symbole que vous et moi voyons, nous commençons à le rendre personnel pour nous-mêmes. Christ l'a rendu personnel. C'était personnel pour lui et c'était aussi personnel pour le Père. Il dit ici, « J'ai livré mon dos au forgeron et mes joues à ceux qui m'arrachaient les cheveux. Je n'ai pas caché mon visage devant l'ignominie et les crachats. » Christ a donc dû passer par la honte. Son corps a été battu. Lisons un peu plus loin, deux chapitres plus loin, au chapitre 52, verset 14. Il est dit ici, « Frères, et chaque année quand je lis ces versets, je suis étonné quand je les lis et je veux que vous le soyez aussi. » Frères et sœurs, il est dit ici au verset 14, « Comme beaucoup s'étonnaient de vous, son visage était plus altéré que celui de tout homme, et son aspect plus que celui des fils de l'homme. Son visage, son apparence. Lorsqu'on regarde Christ, lorsqu'il a été battu, lorsque son corps a été battu et meurtri, il a été marqué, son apparence a été défigurée. Il ne ressemblait plus à un homme. Il est dit, plus qu'aucun homme, et sa forme plus que celle des fils de l'homme. Pensez à la force physique que Christ devait avoir pour que son corps puisse être brisé de cette manière, que ses os ne soient pas cassés, mais que son corps, son apparence soit marquée, défigurée. À quel point faut-il être capable de dire, « Le corps de cette personne est défiguré » C'est ce que Christ nous a donné. Cela ne commence-t-il pas à susciter un peu d'émotion et de sentiment dans votre esprit, mes frères? Pensez au moment où le ministre, pendant le service de la Pâque, ne se contente pas de prendre le pain et d'en donner à chacun une bouchée entière, pour ainsi dire, il doit le rompre. Le corps du Christ a été rompu et pensez à cela lorsque vous prendrez la Pâque, écoutez la rupture du pain lorsque le pasteur le rompt, et pensez au corps du Christ qui a été rompu pour nous. Passons au chapitre suivant, Ésaïe 53 et au verset 5. Mais il était blessé, ce qui signifie qu'ils sont tourmentés, pour nos transgressions, il était meurtri. Brutalisé signifie émietté. Encore une fois, pensez à ce pain qui a été émietté, brisé et détruit. Il était prêt à donner son corps pour qu'il soit détruit, mes frères, pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix était sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce n'est pas seulement que le corps du Christ, le pain qui représente son corps, il l'a donné pour qu'il soit brisé, mais il y a un élément supplémentaire. Reprenons les 11 premiers Corinthiens. Il y a un élément supplémentaire, mes frères, auquel nous devons penser pendant la compréhension, la signification profonde de ces symboles. Nous avons commencé au verset 23 et lu le verset 24 plus tôt, mais maintenant au verset 29. Il est dit, « Car celui qui mange et boit indignement, mange et boit la damnation ou le jugement. » Indigne signifie qu'ils sont irrévérencieux. À lui-même, sans discerner le corps du Seigneur. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup de faibles et de malades, et beaucoup de gens qui dorment. Il est intéressant de noter que Paul associe la guérison à la célébration de la Pâque. Pensons au symbole de la Pâque. Il y a une compréhension supplémentaire pour nous lorsque nous pensons au symbole de la Pâque, en particulier au pain. Nous lisons dans Ésaïe, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Nous devons discerner le corps du Christ. Si nous lisons le verset 29, il y a deux façons de ne pas discerner le corps du Seigneur. Vous et moi, en tant que chrétiens, pouvons discerner le corps de Dieu de deux manières. Pensez à ce corps brisé que nous avons lu dans les versets que nous avons parcourus. Un corps brisé, à travers lui, nous pouvons recevoir le pardon physique pour un sens physique. Si vous pouvez noter, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez noter les psaumes 103, verset 3. En examinant la différence entre le péché physique et le péché spirituel, frère, son corps a été brisé pour que vous et moi puissions obtenir la guérison. Il a rendu la guérison possible. Beaucoup d'entre nous arrivent au jour des pains sans levain, à la Pâque, avec des affections, des maladies, et nous nous demandons, « Dieu va-t-il me guérir ?» Nous voyons ici que son corps a été brisé, mes frères, afin que vous et moi puissions aller voir votre pasteur et lui demander l'onction. S'il est loin, vous pouvez demander un tissu loin pour la guérison. Christ a rendu cela possible. Ce pain que vous prendrez pendant les jours qui viennent, pendant le service de la Pâque. Regardez ce que Christ nous a donné, mes frères, pour rendre possible la guérison physique. L'autre façon de discerner son corps est aussi de discerner où se trouve son corps spirituel, son Église. C'est le sujet d'un autre sermon et nous en avons entendu un récemment sur le corps du Christ, mais c'est aussi ce que nous devons discerner en faisant notre examen de conscience. Frères et sœurs, vous devez discerner où se trouve le corps du Christ, où se trouve l'Église. Revenons à la première épître aux Corinthiens, un chapitre plus loin, et lisons le verset 16. Il s'agit à nouveau de la Pâque. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion ou l'association du sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion? Encore une fois, il s'agit de la participation au corps du Christ. Si vous mangez le pain, frère, nous participons, nous sommes en communion avec le corps du Christ, l'Église, car nous sommes de très nombreux membres. Il s'agit de nombreux membres de Dieu dans l'Église de Dieu. De nombreux membres constituent un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à ce pain unique. Le pasteur prendra le pain et le rompra pour représenter le corps de Dieu, mais pensez aussi que nous sommes tous unis lorsque nous faisons cela. Cela augmentera et devrait augmenter votre foi, mes frères, car vous savez où se trouve le corps du Christ. Lorsque vous prenez la Pâque, vous savez que vous faites partie de ce corps. Non seulement vous pouvez recevoir la guérison, mais vous participez également avec tous les autres à ce corps unique dans l'Église de Dieu, et nous savons où il se trouve. Frères et sœurs, nous avons vu beaucoup de choses sur la signification du corps du Christ. Passons au symbole suivant auquel nous allons prendre part. Il s'agit du vin. Vous êtes dans le chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens. Passons au chapitre 11. Nous avons arrêté notre lecture au verset 24, lorsque nous avons parlé du pain. Au verset 25, 1 Corinthiens 11, 25. De même, il prit la coupe, et, après avoir soupé, il but d'abord à la coupe, en disant que c'est la coupe du Nouveau Testament. Ce n'est pas au sacrifice de l'Ancien Testament que nous pensons, au sacrifice d'animaux, d'agneaux, de taureaux, mais au Nouveau Testament, la nouvelle alliance en mon sang. Christ savait ce qu'il attendait. Faites ceci, frères, nous allons le faire, nous allons y participer, toutes les fois que vous le boirez en mémoire de moi. Combien de fois devons-nous le boire? Beaucoup dans le monde disent qu'ils peuvent le faire à tout moment et ils le font. Ils boivent, prennent le repas du Seigneur, pour ainsi dire, à tout moment, mais ici il est dit, aussi souvent que vous le boirez en souvenir. En souvenir signifie qu'il y a un mémorial, une fois par an. Un mémorial est quelque chose qui se produit une fois par an. Nous prenons part au sacrifice par l'intermédiaire du Christ qui donne son corps et son sang. Ce service, le service de la Pâque, ces deux symboles ont lieu une fois par an. Passons à Matthieu 26. Le sang que nous y avons vu ne représente pas le sang des taureaux ni même le sang d'un agneau. Un agneau que les Israélites devaient prendre le dixième jour du premier mois? Non. Ici, nous voyons dans Matthieu 26 et le verset 27. Il dit encore, il prit la coupe, rendit grâce, et la leur donna, en disant, « Buvez-en tous ». Encore une fois, il s'agit pour nous, frères, d'être unifiés. Christ a dit que tout le monde devait y participer. Il veut que chaque membre de son Église participe, non seulement au pain, mais aussi au sang, au vin qui représente le sang du Christ. Au verset 28, nous lisons, « Car ceci est mon sang. Ce n'est pas du vrai sang, c'est du vin rouge que nous allons utiliser, mais ce vin rouge, ce vin foncé représente, symbolise, transmet, communique la signification, mes frères, et il est également lié à l'émotion si nous pensons à la signification des symboles. Ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Il n'a pas seulement dit verset pour vous, il a dit verset pour plusieurs en vue de la rémission des péchés. Quelle est l'importance du sang, mes frères? Allons-y au chapitre 17 du Lévitique. Lévitique, chapitre 17. Quelle est l'importance du sang? Même ici, nous revenons à l'Ancien Testament, les Israélites, entre tous, en comprenaient la signification. Allons au Lévitique 17, verset 11, qui dit, « Car la vie de la chair est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation de vos vies, car c'est le sang qui fait l'expiation de la vie. » Le sang du Christ a fait l'expiation, mes frères, parce qu'en lui, dans son sang, il y avait la vie. Il était prêt à donner sa vie. Il était prêt à la verser. Comme nous le lisons dans Matthieu, verser signifie répandre. Lorsque vous renversez quelque chose, vous pouvez vous sentir triste. Pensez à un seau de lait ou d'eau que vous transportez et que vous renversez. Votre père vous a dit de ne pas renverser ou gaspiller ce lait ou cette eau, ou d'apporter une tasse de café, et lorsque vous le renversez, vous avez gaspillé quelque chose qui était peut-être important pour quelqu'un d'autre. Le sang du Christ est très important. La vie était dans le sang. Voyons à quel point le sang du Christ est important en allant au premier chapitre de Pierre. La vie est dans le sang. La vie du Christ était dans son sang. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, qui dit « Vous savez que vous n'avez pas été rachetés par des choses corruptibles. » Nous avons parlé du renversement, frères, et quand vous pensez aux choses corruptibles, que pensez-vous qu'il dirait ici, Pierre? aurait-il dit peut-être une racine ou du foin ou peut-être un rocher? Non, il a dit, les choses corruptibles sont aussi précieuses ou aussi valables que l'argent et l'or. Elles peuvent aussi se corrompre, mais ce sont les choses corruptibles de valeur sur cette terre. De votre vaine conversation reçue par les traditions de vos pères, mais avec, frères, nous sommes rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Chaque goutte du sang de Christ était précieuse et il était prêt à tout verser pour donner sa vie. Frères et sœurs, lorsque vous et moi allons, tournons-nous vers Hébreux chapitre 9, lorsque nous allons et nous buvons de ce sang symbolisé par le vin. Le vin que nous buvons symbolise le sang du Christ, ce n'est pas du vrai sang. Il le symbolise. Nos péchés ne sont pas simplement en train de passer. Ils ne sont pas simplement effacés. Regardez ce que Dieu dit ici, en Hébreux, chapitre 9 et verset 13. Hébreux, chapitre 9 et verset 13. Il dit, « Si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre de la génisse, qui asperge les impurs, sanctifie la purification de la chair, combien plus le sang du Christ, ce sang précieux, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert, s'est donné, a pris cette décision, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes ?» Purger signifie, mes frères, devenir propre. Libéré de toute souillure ou de toute culpabilité. Le sang du Christ enlèvera non seulement les péchés, mes frères, mais il purifiera aussi votre conscience des œuvres mortes. Après la Pâque, vous et moi pouvons aller de l'avant et vivre une vie envers Dieu avec de bonnes œuvres. Nous avons reçu le message du lavement des pieds et nous avons entendu parler des bonnes œuvres, des nombreuses bonnes œuvres que nous pouvons accomplir pendant la Pâque. La culpabilité du péché est enlevée. Nous avons une conscience pure devant Dieu pour servir le Dieu vivant. Il est dit qu'il faut purifier sa conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Cela nous rend enthousiastes, n'est-ce pas? Nous voulons prendre la Pâque parce que nous savons que nous deviendrons de meilleurs serviteurs de Dieu lorsque nous aurons pris le pain et, plus précisément, le vin. Frères et sœurs, posons une question en pensant à la deuxième partie de ce message. Nous avons examiné la signification du pain et du vin, mais je voudrais vous demander ce que vous ressentez à ce stade. Quels sentiments? Quelles émotions éprouvez-vous? Je suis sûr que les émotions en vous ont commencé à se mélanger au fur et à mesure que nous parcourions ce message. Vous vous êtes peut-être senti triste lorsque vous avez entendu et vu que Christ était tourné en dérision. Il a été défiguré. Vous avez peut-être même ressenti un peu de colère en pensant à votre propre sens qui a rendu cela possible. C'est notre propre sens qui l'a amené à subir cela. On peut aussi ressentir de la joie, une émotion de joie en pensant à la Pâque, si Dieu va pardonner nos péchés, et si nous pourrons avoir une conscience pure devant lui pour vivre envers lui. Frères et sœurs, nous avons examiné la signification d'un symbole. Symbole. La définition d'un symbole est de transmettre un message, un sens spécifique, mais aussi des émotions. Pensez aux émotions de Dieu le Père et de Jésus-Christ lorsqu'il prépare la Pâque, lorsqu'il prépare le sacrifice du Christ. Frères et sœurs, dans cette deuxième partie, nous avons d'abord examiné la signification du pain et du vin. En poursuivant ce message, nous devrions rendre cela personnel. C'était personnel. La Pâque était personnelle au Père et au Christ. Elle a suscité en eux des sentiments et des émotions. Cela devrait également être le cas pour vous et moi lorsque nous examinons le but de la Pâque. Le pourquoi de la Pâque. Nous avons examiné la signification, nous allons maintenant examiner l'objectif, le pourquoi. Comprendre l'objectif, mes frères, suscitera des émotions en nous. Revenons au 1 Corinthiens, là où nous avons commencé. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Nous examinons maintenant l'objectif de la Pâque, l'objectif de ces deux symboles. Verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain, nous avons déjà vu que c'est une fois par an, et que vous buvez la coupe, vous témoignez de la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Christ a donné son corps, il a donné son sang, il est mort, mes frères, mais nous manifestons, cela veut dire que nous proclamons la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Qu'est-ce que cela signifie? Frères et sœurs, connaître l'objectif singulier de la Pâque nous aidera, vous et moi, à nous préparer, à avoir l'attention et l'approche appropriées pour la Pâque de cette année, qui aura lieu dans quelques jours. La Pâque, mes frères, comme beaucoup de chrétiens le croient, ils pensent que c'est la fin du plan de Dieu. Ils pensent qu'il suffit de croire en Christ, de croire en son sacrifice, et qu'il n'y a plus rien à faire. Non, la Pâque est le début. C'est la première étape du plan de Dieu, qui rend le salut possible, et nous devons agir. C'est la première étape. Elle a rendu les autres fêtes possibles. Elle ouvre le plan de Dieu pour qu'il puisse continuer à travers elle. Pensez à la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. C'est beaucoup de choses à penser. La Pâque, sa signification et son but permettent à l'ensemble du plan de salut de Dieu de se déployer. Frères et sœurs, il s'agit d'en faire une affaire personnelle. Regardons comment Christ a rendu la Pâque personnelle, les émotions qu'elle a suscitées, et nous en apprendrons plus sur le but. Suivez-moi dans Luc, chapitre 22, et lisez le verset 15. Il est dit, reprenons au verset 14. C'est juste avant la Pâque. Juste avant ce que les disciples allaient apprendre, ce que nous apprenons sur le pain et le vin. Il est dit, l'heure étant venue, il s'assit, et 12 disciples avec lui. Pensez à nous, frères, assis ici, mais aussi assis pendant le service de la Pâque, et il est dit, il leur dit, je désire vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Imaginez l'approche du Christ. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête lorsqu'il était assis avec ses disciples et qu'il savait qu'il allait mourir dans quelques heures? Il allait donner son corps, il allait donner son sang. Il ne s'est pas assis et n'a pas transpiré devant les disciples, ni n'a tremblé de peur. Non, il a dit qu'il désirait. Désirer, mes frères, signifie avoir envie. Il avait envie d'être avec ces 12 hommes. Cela signifie aussi désirer. Nous avons déjà vu que Christ n'avait pas de cupidité, pas d'envie, pas de désir en lui, mais il y a un désir, mes frères, une émotion, un sentiment en lui qui est juste. Christ voulait être, il avait envie d'être avec ces hommes parce qu'il ne regardait pas seulement sa mort, mais il regardait jusqu'à ce qu'il vienne, sa vie. Frères et sœurs, passons à Jean. Il ne s'agit pas seulement de la Pâque, il ne s'agit pas seulement de la mort du Christ. Il ne s'est pas seulement concentré sur les quelques heures qu'il attendait, il s'est concentré au-delà. Il s'est concentré sur le plan de Dieu et sur notre rôle dans ce plan. Jean 6, verset 47. Jean 6, verset 47, il est dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. » Christ a dit que si l'on mange le pain, mes frères, et que l'on boit le vin, ceux qui croient en moi ont la vie éternelle. Prendre la Pâque, mes frères, c'est exprimer sa foi. Non seulement votre foi dans le fait que nous croyons que Christ est mort, mais aussi qu'il est vivant. Son désir et sa soif étaient de rendre la vie possible pour nous tous. Il a exprimé sa foi dans le Père lorsqu'il a su qu'il était vivant, lorsqu'il a dit dans la première épître aux Corinthiens, Je vais mourir et vous allez le proclamer par la Pâque, en prenant ces deux symboles, jusqu'à ce que je vienne. » Il savait qu'il était vivant. Il savait qu'il allait mourir et il avait la foi que le Père le ressusciterait en lui donnant la vie. C'était personnel. Lorsqu'il a dit « Je désire manger cette Pâque », c'est à ce désir qu'il a pensé. La vie qui nous serait donnée en prenant ces symboles. Quelles émotions ont traversé l'esprit du Père? Allons à Ésaïe 53. Lorsqu'il a vu son fils torturé, mes frères, lisons le chapitre 53 et le verset 9 d'Ésaïe. Ésaïe 53 et le verset 9, il est dit, « Il a fait son tombeau avec un méchant et avec un riche dans sa mort, parce qu'il n'a point fait de violence, et qu'il n'y a point eu de fraude dans sa bouche. » Il s'agit du Christ. Mais il a plu à l'Éternel de le meurtrir, et il l'a fait souffrir. Quand on fera de son âme un sacrifice pour le péché, il verra sa postérité. Il proclamera ses jours, et la volonté de l'Éternel prospérera entre ses mains. Cela a plu au Père. Le mot « plaire » signifie « désir », « plaisir » ou « joie ». Comment le Père a-t-il pu éprouver du plaisir en passant par cette émotion lorsqu'il a vu son fils mourir? Frères et sœurs, il a détourné son regard du péché lorsque notre péché était sur son fils, mais on ne peut certainement pas dire qu'il a été satisfait parce que son fils est mort. Pourquoi était-il satisfait? Nous trouvons la réponse dans ce verset. Il est dit que « il verra sa postérité ». Frères et sœurs, le Père et Christ ont désiré, ils ont eu envie. Ils étaient heureux de donner Christ en sacrifice parce qu'ils verraient sa semence, sa descendance. Je vois la semence de Dieu devant moi et ceux qui entendent ce message, vous êtes la semence de Dieu. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Christ a sacrifié son sang et le pain, son corps brisé, a rendu la vie possible. Que devrions-nous faire, vous et moi, frères, pendant les dernières minutes de ce message? Comment le rendre personnel? Quelles émotions devrions-nous ressentir si le Père et Christ ont voulu la Pâque parce qu'ils savaient qu'elle nous donnerait la vie? Vous et moi devrions intérioriser ce que nous recevons. Il ne s'agit pas seulement d'une connaissance académique de la signification des symboles, mes frères. Rappelez-vous chaque fois que nous lisons, Christ a dit, « Prenez et mangez, prenez et buvez. » Lorsque vous prenez le pain et le vin et que vous les buvez, vous les avalez et votre corps les absorbe et ils deviennent une partie de vous. Cela fait partie de ce que vous êtes. Vous l'intériorisez. Intériorisez le sens, mes frères, allez et pensez à méditer sur Christ, le pain et le corps. L'intériorisation de ce que cela signifie pour nous créera également une énorme émotion en nous. Que devons-nous faire, vous et moi, juste avant la Pâque, alors que nous continuons à faire notre examen de conscience? Nous commençons à ressentir, vous avez déjà commencé à ressentir certaines émotions. Peut-être qu'en faisant votre examen de conscience, frère, vous commencez à vous sentir coupable de votre péché. Rappelez-vous que Dieu a dit, « Je purifierai votre conscience. » Vous ne vous sentirez pas coupable après avoir pris la Pâque. Ce sentiment disparaîtra. Peut-être vous sentez-vous triste à cause du péché que vous avez commis ou même chagriné, en pensant à la repentance. L'une des étapes du repentir consiste à éprouver de la tristesse. Peut-être criez-vous à Dieu. Cela peut devenir intense, et cela devrait être personnel au cours des deux prochains jours. Frères et sœurs, allons au chapitre 7 de Matthieu pour conclure ce message. Le chapitre 7 de Matthieu et le verset 7 sont faciles à retenir. Nous n'allons pas passer par toutes les étapes de ce que nous devons faire pour nous examiner nous-mêmes, mais nous regardons le même sentiment que le Père et Christ ont eu, le désir. Lisons le verset 7, Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez, mes frères, signifie réclamer, supplier, appeler Dieu avec désir. C'est ainsi que vous et moi adoptons la bonne approche. Dieu le Père et Christ ont voulu que nous puissions prendre la Pâque, que nous soyons dans son corps, que nous soyons ici, que nous participions au pain et au vin. Et nous devrions désirer, nous devrions nous préparer correctement et nous préparer. Demandez à Dieu, mes frères, d'ouvrir votre esprit dans des domaines que vous n'avez jamais vus auparavant. Demandez à Dieu, frères, de vous ouvrir l'esprit dans des domaines que vous n'avez jamais vus auparavant, mais aussi dans des domaines où vous avez grandi. Demandez le pardon. Demandez la repentance, le don de la repentance. En parcourant les sept étapes de la journée de repentance, vous pouvez noter le chapitre 7 de l'Épître aux Corinthiens, versets 10 et 11. Parcourez les sept étapes de la repentance. Il s'agit d'une émotion forte. La cinquième étape que vous franchissez est celle du désir véhément. Vous avez un désir ardent, un désir sincère d'éliminer le levain de votre vie. Frères et sœurs, nous devons intérioriser, rendre les choses personnelles par le biais d'une forte émotion alors que nous nous préparons pour la Pâque. Passons à un dernier verset, deux versets, au chapitre 5 de l'Épître aux Romains, pour résumer l'objectif de la Pâque. Romains, chapitre 5 et verset 8. Frères et sœurs, lorsque vous tournez là, Romains chapitre 5 et verset 8, prendre la Pâque, frères, est une expression de notre foi. Il ne s'agit pas seulement de notre foi dans le sacrifice et la mort du Christ ou dans sa vie, mais c'est aussi l'expression de notre foi dans le fait qu'il est vivant en nous. C'est ainsi que nous proclamons la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Nous montrons au monde que nous croyons, non seulement que Christ est mort, mais qu'il est vivant, et qu'il vit sa vie en nous. C'est pourquoi nous préparons nos vies à devenir des serviteurs de Dieu plus efficaces. Lisons le verset 8, un verset très spécifique de la Pâque, alors que nous commençons à conclure. Car Dieu commence son amour envers nous en ce que, alors que vous étiez encore pécheurs, alors que nous péchions, frères, que nous enfreignions la loi de Dieu et que ces péchés, le salaire du péché, conduisaient à la mort, Christ est mort pour nous. Bien plus que d'être maintenant justifié, vous serez purifié, votre conscience sera purifiée par son sang. Nous avons vu la signification du sang. Nous serons sauvés de la colère par lui, par Jésus-Christ. Nous ne sommes plus sous la peine de mort. Lisons le verset 10, car si, lorsque nous étions ennemis, Dieu nous a réconciliés. Frères et sœurs, Dieu change, cela signifie changer mutuellement. Nous avons à nouveau une relation avec Dieu par Christ. Nous sommes réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Pensez aux choses dont vous et moi avons besoin d'être sauvés et de continuer à être sauvés de toutes les choses dont vous vous examinez pendant cette période de Pâques. Car nous avons 2 semaines, et si vous l'entendez sur le terrain, mes frères, il reste encore quelques jours. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas comme le monde trop concentrés sur les symboles. Ils peuvent aller si loin, même si nous pensons à la croix, que les gens en font une idole. Nous ne nous concentrons pas tant sur ces symboles que nous avons appris à connaître. Votre ministre s'en prendra à la Pâque, au pain qui a été béni, au vin, mais il s'en débarrassera, il les détruira. Ce n'est pas tant le symbole qui compte, mais bien plus la signification profonde et puissante, mes frères, et ce but unique dont nous avons appris l'existence. Il ressort clairement de la parole de Dieu, mes frères, qu'à moins de participer aux 2 symboles, le pain représentant le corps du Christ brisé pour nous, Le vin représentant ce sang très précieux versé en offrande pour le péché, nous n'avons aucun espoir de vie éternelle, mais si nous y participons, si nous prenons le pain et le vin, nous ne mourrons pas. Christ dit que vous avez la vie en vous. Frères et sœurs, le Père et Christ désirent que chacun de nous s'examine et désire être à la table de la Pâque préparée pour vous et moi parce qu'il veut que vous et moi fassions partie de sa famille. Frères et sœurs, allons-y et soyons prêts, préparés et participons à la Pâque.